va être enlevé. Voilà. Alors, on va voir Jésus en tant que prophète ce matin et encore dans les semaines à venir. Jésus, le prophète de Dieu, c'est un très beau thème, moi je ne l'ai jamais abordé. Alors on va limiter quand même notre analyse là, nos investigations dans l'évangile de Matthieu, autrement ça fait un travail trop vaste. Donc on va se tenir à l'évangile de Matthieu et pour voir ce que cet évangile nous apprend sur Jésus en tant que prophète. On a vu que ce n'est pas le prophète qui veut. Le prophète porte un message venant de Dieu. Et comment savoir si c'est un vrai prophète? Mais bien sûr, il faut qu'il soit un homme qui craigne Dieu, hein, qui marche avec lui, qui honore ses commandements. Mais également, s'il fait des prophéties, mais ces prophéties, on doit avoir l'accomplissement. Et ainsi, on sait que c'est un vrai prophète. Alors, il n'y a pas toujours eu des prophètes. Vous savez que l'Ancien Testament, après Malachie, et pendant 400 ans, il n'y a pas eu de prophète en Israël. Et pourtant, le peuple avait traversé des moments très difficiles. C'était une période très difficile de son histoire. Ça n'a pas toujours été. Il y a eu des moments calmes, mais des moments vraiment très tendus. Et ils étaient dans l'attente du Messie qui devait venir, le prophète, comme il l'appelait. Le prophète annoncé par Moïse, qui devait être comme Moïse. Et nous allons regarder Jésus en tant que prophète ce matin, et également l'accomplissement de ces prophéties qu'il a données quand il était dans son ministère auprès des églises, auprès du peuple, quand il allait dans la synagogue, quand il visitait les différentes villes pour annoncer le royaume de Dieu, voir les prophéties qu'il a données et qui se sont accomplies quand il était parmi nous sur la terre, avant son ascension. Donc voilà le programme de ce matin. Et la semaine prochaine, on ira un petit peu plus loin. Alors Jésus comme prophète, alors j'en ai parlé, veut se présenter comme le nouveau Moïse et le nouveau Élie. À travers Élie, nous avons toute une famille de prophètes, et à travers Moïse, lui, c'était la loi, c'était la communication face à face avec Dieu qui était intéressante. Et pour Élie, c'était la puissance de Dieu. C'était un homme qui avait fait des miracles et qui commandait le feu avec l'Église. Dieu répondait à ses prières, faisait descendre le feu du ciel, il priait, il ne pleuvait pas, il priait, il se mettait à pleuvoir. Un homme passionné pour Dieu. Alors, Jésus, vous le savez, a fait de nombreux miracles quand il était parmi nous. Alors, l'évangile de Matthieu en rapporte beaucoup de guérisons. Et ces guérisons, elles ont lieu parce que Jésus a de la compassion ou parce qu'il répond à la foi de la personne qui lui fait une requête. Alors j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 passages où l'apôtre ou l'apôtre Matthieu mentionne des guérisons. Alors 4, 24, maladie, des douleurs de divers genres, des lunatiques, des paralytiques. 8, 3, lépreux, le serviteur du centenier. 9, 6, le paralytique qui est pardonné. Deux aveugles, chapitre 9, verset 30. La dame qui avait la perte de sang. Ça évoque des choses pour vous. On connaît tous ces miracles. L'homme à la main sèche dans la synagogue. Chapitre 12, verset 15. Tous les malades. 14, verset 14. Tous les malades sont guéris également. 14, 36. Tous les malades qui touchent son habit. Chapitre 15, 28. La fille de la femme cananéenne. Chapitre 15, verset 30, des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Et enfin, la dernière guérison concerne l'aveugle, les deux aveugles sur le chemin de Jéricho. Jésus aussi a chassé beaucoup de démons, à quatre reprises, c'est mentionné. Et il a fait d'autres miracles. Chapitre 8, 26, quand il apaise la tempête. Alors, on connaît cela, ou quand il ressuscite la fille du chef de la synagogue. Ça, c'était exceptionnel. Et puis, il a multiplié les pains et les poissons à deux reprises. Et il a permis que Pierre marche sur l'eau, au milieu d'une tempête. Au milieu d'une tempête. Alors, les tempêtes, on sait ce que c'est en ce moment. Jésus a donné un enseignement public en tant que prophète. Ça, c'était plutôt le côté de Moïse. Quand il a parlé sur le sermon de la montagne, où il a dit, moi je vous dis que, vous avez appris, Moïse a enseigné cela, et moi je vous dis que, un nouvel enseignement, une révision, on pourrait dire ça, de tout ce qui a été vu, de façon, la loi de Moïse qui allait être magnifiée. Et il parlait beaucoup en parabole également, et beaucoup d'échanges conflictuels avec les autorités religieuses de l'époque. Un enseignement public. Les personnes, quand on demandait mais qui est Jésus, elles savaient, ben, c'est un prophète. C'est un prophète comme les prophètes d'autrefois. Jésus était vraiment perçu comme un prophète de Dieu. Et les responsables religieux avaient peur du peuple s'ils avaient dit que Jésus n'était pas un prophète. Alors, quelles sont les prophéties qu'il a accomplies pendant son ministère? Il n'y a que ses proches qui ont assisté, d'après ce que j'ai lu dans le texte, il n'y a que ses proches qui ont assisté à l'accomplissement de prophéties quand il était avec eux. Matthieu chapitre 21, verset 2, souvenez quand... il s'agit que Jésus avance vers Jérusalem, elles sont toutes dans la dernière période de sa vie, ses prophéties. Quand il avance vers Jérusalem, il a besoin d'un anneau et il donne des instructions à ses apôtres. Allez chercher l'anneau à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Vous allez trouver un anneau, vous allez le prendre, on va vous dire pourquoi vous le décrochez, vous répondrez, le maître en a besoin, etc. Donc, ils ont vécu cet accomplissement. Ça ressemblait un petit peu, vous savez, à ce qu'avait dit le prophète Samuel quand j'étais avec Saül. Saül était un tout jeune homme et Samuel lui dit, voilà, tu seras roi d'Israël. Dieu t'a désigné comme roi d'Israël. Il avait du mal à le croire, Saül. Et Samuel va lui donner toutes sortes de prophéties, des choses qui vont lui arriver dans sa vie. C'est un petit peu comme ça. Une autre prophétie concerne l'annonce de la trahison de Jésus quand ils étaient dans la chambre haute. Et les apôtres, on voit qu'ils avaient une grande considération pour les paroles de Jésus parce que l'un de vous va me trahir et ils se regardent tous. Mais qui ça va être? Est-ce que ça va être moi? Ils ont à tel point une... Ils croient à la parole de Jésus au point tel qu'ils se mettent, mais ça, est-ce que ça peut être moi-même qui peux faire ça? Ils se posent des questions sur eux-mêmes. Et mais ils pensent que cette prophétie va s'accomplir. Ensuite, il y a le reniement de Pierre, vous savez, 26-34, avant que le corps de chant tu mourras renié trois fois, Pierre, et une prophétie qui va s'accomplir. Et que Pierre va voir. Hein. Et puis dans le jardin de Gethsémané, il y a l'arrivée de Judas, où Jésus annonce à l'avance, voilà, Judas arrive, et c'est fini. Et ils se sont tous dispersés. Alors, pourquoi le peuple n'a pas vu de Jésus de prophéties que Jésus aurait donné et qu'ils auraient vu pendant que Jésus était là. Pourquoi? Bon, je réfléchis, j'ai fait des hypothèses que je vous soumets. Je ne suis pas, bien sûr, à la place du Seigneur, mais j'ai réfléchi à deux choses. Jésus avait une mission, vous savez, d'accomplir la prophétie d'Ésaïe, chapitre 6. Va et dis à ce peuple... Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Et donc, ici, nous avons, Jésus a dit que cette prophétie s'accomplit. Il s'est mis à parler en parabole. Et Jésus n'avait pas pour objectif de convaincre les autorités religieuses qu'il était le Messie. C'était pas son objectif. Hein. Eux, ils n'étaient pas du tout impressionnés par les guérisons, les miracles, hein, quand ils chassaient les démons. Pour eux, c'était pas une preuve qui venait de Dieu. Et Jésus n'a pas cherché à leur faire reconnaître qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Jésus était venu, deuxième raison peut-être, c'est que Jésus était venu pour enseigner la foi. Enseigner la foi, croire sans voir. C'est vraiment marqué tout son ministère. Il voulait que ses apôtres apprennent ce qu'était la foi. Et il a toujours honoré les personnes qui avaient la foi. Et la foi, c'est croire sans voir, sans avoir de preuves. Et donc c'est peut-être pour ces raisons que Jésus n'a pas accompli fait des prophéties que le peuple entier aurait vu leur accomplissement et aurait pu dire oui vraiment celui-là c'est il est prophète de façon incontestable. Non, la foi devait être exercée. Pourtant Jésus a fait une prophétie capitale pendant le temps où il était parmi nous. On va passer un peu de temps maintenant sur cette prophétie capitale, cette prophétie centrale par rapport à sa mort et à sa résurrection. La mort, même Jésus, quand on voit les réactions des apôtres quand il a annoncé ses prophéties, on va les lire tout à l'heure. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas imaginé comment ça peut être possible que le Messie, le prophète que le peuple attend depuis 400 ans, comment se fait-il qu'il puisse mourir et qu'il puisse mourir à Jérusalem? C'était quelque chose qui était inconcevable. Ça, c'était déjà quelque chose, une prophétie qui était, comme on dirait, dure à avaler. Et encore plus fort que ça, il disait 3 jours après, je me relève de la mort. Et ça, c'est au-dessus de la compréhension de ses auditeurs. Et c'est bien là la prophétie centrale que Jésus a donnée et qui attestait qui il était. Qui attestait vraiment qui il était. Des prophéties avec une chance d'accomplissement nulle. Hein. Et Jésus donne une date, 3 jours après. Alors on va lire cela. Vous pouvez ouvrir le chapitre 12, versets 38 à 40. Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 40. Donc on est... juste avant que Jésus parle en parabole, hein. Il vient juste avant, il vient de se les pharisiens le mettent au défi, hein, ils disent qu'il n'est pas que c'est par Satan qui chasse les démons. Et juste après, dans Matthieu 13, il va parler en parabole. Et entre les deux là, on a ce passage. Matthieu 12, 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de Dieu sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Cette prophétie va la rappeler quelques chapitres plus loin, un petit peu plus tôt, hein, chapitre 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il sera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner le signe des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Donc, celui du miracle, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais Jésus a été mis et il est mort à 15h l'après-midi du vendredi. Le samedi, c'est le sabbat, et il ressuscite le dimanche matin, à l'aube. Bon, ça fait pas 3 jours, ça fait même pas 48 heures, ça fait juste 36 heures. Pourquoi Jésus a dit 3 jours? Pourquoi il a parlé de 3 jours? Alors, j'ai cherché des explications. Alors, je voudrais vous soumettre mes réflexions. Nous avons, nous autres, au 21e siècle, l'habitude de compter. On ne compte pas les jours. On compte les minutes. On compte même les secondes. Le JT, il commence à 20h pile. C'est précis à la minute près. Et quand on fait un match de foot, 45 minutes, c'est 45 minutes. C'est pas 45 minutes et 30 secondes, c'est 45 minutes à la fin de la partie, dernière action, on termine. Et nous avons l'habitude, nous, d'être très précis. On gère les temps très courts. Mais du temps de la Bible, c'était pas comme ça. Dans le vocabulaire disponible pour les Hébreux, le vocabulaire biblique, le mot jour, pour mesurer le temps, n'existe pas. On ne mesure pas le temps avec des jours. L'heure n'existe pas. On ne mesure pas le temps avec des heures. On ne mesure qu'avec des jours. C'est la plus petite unité, c'est le jour. Et on peut diviser les nuits en 3 veilles pour les soldats. Mais ça ne va pas plus loin que cela. Et du temps de Jésus, il y a l'heure qui existe. Le mot heure qui détermine une période de temps existe dans le grec, il est utilisé. Mais il désigne uniquement le découpage de la journée de travail en 12 périodes d'une journée. Ça fait 12 heures. Mais on ne compte pas au-delà de 12. Il n'y aura pas l'idée de parler de 24 heures, ou de 36 heures, ou de quoi d'autre. C'est 12 heures. Ça va de 1 à 12. C'est la journée de travail. C'est tout. L'utilisation du mot jour, du mot heure. Donc la notion du temps n'est pas du tout la même que la nôtre. Il n'y a pas cette question de précision. Que nous, on a l'habitude de gérer. Hein, on compte notre temps, hein, on compte nos minutes, mais ce n'était pas comme ça à l'époque. Est-ce que vous pouvez aller chercher, garder un doigt sur Matthieu et aller tourner sur Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Vous connaissez l'histoire de Corneille, de sa conversion. Et comment ça s'est passé cette histoire très précise qui nous est racontée par Luc. Alors, César et Philippe, dans un centenier romain, Corneille a une vision. Il est 15h quand il a la vision. C'est très précis. 15h. Ou alors, la troisième heure de l'après-midi plutôt. Je dis 15h, mais c'est la troisième heure. Hein. Un ange de Dieu lui demande de faire venir un certain Pierre qui est à Jopé. À 50 ou 60 km au sud de Césarée. Et immédiatement, il envoie 2 serviteurs et 1 soldat pieux pour faire venir Pierre. Et les soldats arrivent chez Pierre le lendemain à midi. Pierre a la vision de ces soldats qui arrivent, de ces personnes qui arrivent pour le chercher le lendemain à midi. Et ils sont partis donc à 15h la veille. Donc ils ont marché certainement une bonne partie de la nuit. Pierre repart avec eux le lendemain matin. Et le voyage est plus long avec Pierre, puisqu'ils dorment en chemin et ils arrivent chez Cornet à 15h, après la troisième heure. Bon, ça fait 15h l'après-midi. Alors, total, entre la vision de Corneille et l'arrivée de Pierre, il se passe, on dirait nous, 3 jours, précisément 72 heures. C'est vraiment précis. Et qu'est-ce qu'on lit en Actes chapitre 10, verset 30 ? C'est le centenier romain qui parle, c'est quelqu'un qui a une certaine parole. Et chapitre 30, Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. » Il dit, « À la 9e heure, c'est, ça fait 15h, 3h l'après-midi, excusez-moi. » Corneille, il dit, « Voilà, 4 jours. » Il n'y a pas 3 jours, il y a 4 jours. Et voilà la façon dont on comptait du temps du Seigneur. On ne comptait pas comme maintenant. Jésus est mort à la 9e heure, 15h, le vendredi, ça fait le premier jour, un jour. Le samedi, ça fait 2 jours. Et le dimanche, alors il ressuscite, ça fait 3 jours. Voilà, et on parle de 3 jours, on ne parle pas de 2 jours. Ce serait incorrect de parler de 2 jours, on parle de 3 jours. Et donc Jésus a dit, ben, il ne pouvait pas dire je serai 2 jours, non, il pouvait dire je serai 3 jours dans le sein de la terre. Mais il dit 3 jours et 3 nuits, ben, il n'y a que 2 nuits là. Comment ça se fait qu'il parle de 3 jours et 3 nuits? Alors, je crois qu'ici la mention de 3 nuits, n'exprime pas toujours dans notre tête une durée, mais ça exprime la continuité. C'est-à-dire il y a eu une continuité, il est vraiment resté, comme Jonas est resté dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, il n'est jamais sorti pour dormir ailleurs et revenir dans le ventre du poisson. Jésus est resté dans la terre, dans la mort, il est resté dans la mort 3 jours et 3 nuits. Ça exprime la continuité, la continuité. Vous verrez que la Bible dit que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits quand il était dans le désert. Il n'est pas dit. Et le fait que ça précise 40 jours et 40 nuits, ça signifie qu'il n'a pas mangé pendant la nuit, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. Les musulmans font un jeûne pendant le ramadan, ils ne mangent pas pendant le jour, mais ils mangent pendant la nuit. Mais pour Jésus, c'était 40 jours et 40 nuits. C'était continu. Quand David poursuit les Amalécites, à 1 Samuel 30, il rencontre un fuyard et il lui dit qu'il n'avait rien mangé ni bu depuis 3 jours et 3 nuits, lui aussi. Et Moïse, il est resté dans la présence de Dieu au mont Sinaï, le texte dit 40 jours et 40 nuits. C'est une mention qu'on retrouve dans la Bible de 40 jours et nuits, 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire qu'il y avait continuité. Moïse n'a pas fermé l'œil, il ne s'est pas endormi, il n'a pas dormi quand il était dans la présence de Dieu, qu'il recevait la loi. Non, il était continuellement dans la présence de Dieu, 40 jours et 40 nuits d'affilée, on dirait aujourd'hui. Hein. 40 jours et 40 nuits d'affilée. Donc il y a cette idée de continuité, je pense. Quand Jésus dit 3 jours et 3 nuits, ça exprime la continuité, sans interruption. Alors, voyons maintenant comment Jésus a répété la prophétie de sa mort et de sa résurrection à ses disciples. Oh là là, c'est trop de retard, excusez-moi. Chapitre 16, versets 21 à 22. Matthieu, chapitre 16, 21 à 22. Matthieu 16, 21 à 22. Dès lors, donc c'est après que Jésus a que Pierre a dit que Jésus était le Christ et que Jésus a annoncé la fondation de l'Église sur les apôtres. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et a dit : Ah, Dieu ne plaise, Seigneur. 17-22, juste un petit peu plus loin. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus dit : Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. C'est incompréhensible. Ils sont attristés, comme s'ils n'avaient pas entendu, il ressuscitera. On va aller voir plus loin. Chapitre 20, versets 17 à 19. Jésus leur répète encore cette prophétie. Chapitre 20. Pendant qu'il montait à Jérusalem, verset 17, il prit à part les 12 et leur dit en chemin : Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Trois fois, Jésus a répété cette prophétie à ses disciples. Trois fois. Et ça, vous savez, dans la Bible, les répétitions, ça marque l'importance. Jésus a voulu vraiment insister sur cette importante prophétie qu'il venait de donner. Et donc, si on pousse un petit peu plus loin, chapitre 27, on voit que cette prophétie, en fait, était connue de tout le monde. Tout le monde, enfin, j'ai dit tout le monde, en tout cas, jusqu'aux sacrificateurs et aux responsables religieux qui étaient à Jérusalem, très loin du cercle des disciples de Jésus, eh ben, ils étaient au courant de ça. Chapitre 27, verset 62. Le lendemain de la crucifixion, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, allèrent ensemble auprès du Pilate et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour. Pas davantage, ce n'est pas nécessaire davantage après. Il avait dit trois jours. Jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple : Il est ressuscité des morts. Ils savaient, les responsables savaient, connaissaient cette prophétie, on peut dire, mais tout le monde, finalement, connaissait cette prophétie de Jésus. Pourquoi Jésus a insisté, pourquoi elle est centrale dans notre texte de Matthieu ? La probabilité d'accomplissement de la prophétie était nulle. C'est en fait une prophétie, quelque chose qui va arriver dans le futur, mais là, prophétiser sa mort, ça c'est déjà fort. Les conditions de sa mort, ça, personne ne fait ça. Les prophéties qu'on va ressusciter après, ça c'est... Tout le monde savait, mais personne n'a cru aux paroles de Jésus. C'est incompréhensible. Plus que ça, ils ont vécu la mort de Jésus. Les disciples ont vu la prophétie s'accomplir. Les souffrances livrées aux païens, toute cette première partie de la prophétie, ils l'ont vécu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus a été mis en croix? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand les femmes sont venues de leur dire « Il est ressuscité » Ben, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ont vu s'accomplir la première partie de la prophétie. Mais la dernière, je ressusciterai. Ils ne croyaient pas quand même. Ils n'ont même pas cru à ce que Jésus avait dit. Alors c'est incompréhensible. On pourrait être tendance, vu de nous, ben, avec, voilà, ils étaient vraiment des incrédules. Ils se moquaient d'eux. Aujourd'hui, nous savons que Jésus a prophétisé sa mort. Nous savons qu'il est mort. Nous savons qu'il est ressuscité. Nous savons que tout ça s'est passé comme il l'avait annoncé. Et est-ce que pour autant nous croyons aux paroles du prophète Jésus? On croit, c'est vrai, intellectuellement ce que Jésus a dit, mais est-ce qu'on croit dans toutes ces paroles? Pourtant, c'est attesté par l'accomplissement de cette prophétie. Est-ce que, comme les apôtres, après la mort de Jésus, est-ce que nous ne sommes pas, nous, abattus, découragés, comme ils l'ont été, eux, après que Jésus a été crucifié? Combien de fois le monde a-t-il, entre parenthèses, crucifié Jésus depuis 2000 ans? Combien de fois on a dit, celui-là, non, c'est pas le Fils de Dieu, on ne tient pas compte de lui. On ne tient pas compte de tout ce qui s'est passé. Notre société a vécu des réformes de lois qui sont difficiles pour les chrétiens tous ces derniers temps. Le mariage et la procréation pour les homosexuels. Dernièrement, les réformes de la loi bioéthique. Et on a la dernière loi sur le séparatisme, comme quoi les parents ne seront plus responsables de l'éducation qu'ils veulent donner à leur enfant. Il faut que ce soit d'autres qui la fassent. Chaque fois, en quelque sorte, c'est Jésus qui est crucifié et nous sommes abattus. Notre morale est réduite à zéro quand on voit ça. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Alors que, on oublie la deuxième partie, Jésus est ressuscité. Pourquoi la prophétie de Jésus sur sa mort est-elle centrale? Vous savez, Jésus a accompli une prophétie qui remonte à la nuit des temps, qu'avait fait Dieu dans le jardin d'Éden, quand l'humanité a chuté avec la désobéissance de nos aïeux Adam et Ève. Dieu avait fait cette promesse à Ève, un jour, ta postérité écrasera la tête du serpent et lui blessera le talon. Et on peut imaginer la croix, et on peut imaginer le serpent qui plante ses crocs. Tout est vidé dans Jésus. Mais Jésus meurt et il ressuscite. Il triomphe de cela. Et le serpent est vidé de son venin. Il ne peut plus rien faire. Et il est là, sous le pied de Jésus. Et d'un moment à l'autre, il va être écrasé. Alors, est-ce qu'on va rester abattu? Non. On ne va pas rester abattu. Devant les difficultés, on va se rappeler de toutes les prophéties de Jésus-Christ, combien sa parole est sûre, et tout ce qu'il a dit va s'accomplir. Cette prophétie centrale a été, contre toute espérance, accomplie par Jésus-Christ. Alors on peut avoir vraiment confiance, on va prier. Seigneur, oui, merci pour ta parole, merci pour Jésus qui est venu. Nous te demandons de fortifier notre foi. Seigneur, attends-nous de la foi. Et Seigneur, fortifie notre foi dans les paroles de Jésus, qui est vraiment un prophète hors norme, incomparable. Jamais un tel prophète n'est venu sur la terre nous parler de toi, comme l'a fait Jésus. Et Seigneur, il est ressuscité, il est toujours vivant. Il a triomphé de tous nos ennemis à la croix de Golgotha. Nous sommes réellement libres et il n'y a plus de vrais sujets, de vraies raisons d'être abattu. C'est vrai, tu as été mis à mort, mais le troisième jour, tu es ressuscité et tu as triomphé de notre plus grand ennemi, la mort même. Seigneur, béni soit ton nom, fortifie-nous ce dimanche malgré le mauvais temps, malgré les difficultés, malgré les incertitudes qui pèsent sur notre Église, sur les membres qui sont ici. On ne sait pas ce que sera l'avenir. Et Seigneur, on peut avoir cette assurance de ne pas être abattu. Oui, tu as vaincu à la croix. Tu as vécu la mort et tout va bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you.